Les podcasts du Collège de France, biologie.
On va commencer doucement. Donc, première chose, contrairement à ce que dit le site web, il y a un cours la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, qui est donc le futur de Sapiens. Si futur il y a, ce qui est une question qu'on pourra se poser, et si j'arrive déjà à en terminer avec l'origine de Sapiens, ce qui n'est pas évident. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment, la semaine dernière, d'avoir été un tout petit peu ésotérique, je dirais, d'avoir senti un petit flottement. Donc, je vais reprendre deux, trois petites choses de la semaine dernière avant de redémarrer le cours que je pensais faire aujourd'hui, de toute façon que les choses soient vraiment aussi claires que possible. En fait, j'avais la tête ailleurs la semaine dernière, donc du coup, je ne l'avais pas ici. Donc... ce que j'essayais de vous faire comprendre la semaine dernière, c'est que les bords entre les différents territoires à la surface du cortex, qui ont leur importance, parce que l'évolution, ce n'est pas uniquement l'agrandissement ou la diminution de la surface du cortex, l'agrandissement dans le cas de notre espèce, bien sûr, c'est aussi la modification des surfaces relatives des différentes aires, c'est-à-dire par exemple moins pour l'olfactif, moins pour le visuel, plus pour le cognitif en ce qui concerne notre espèce par rapport au singe, et donc que ces positionnements de bord à la surface du cortex entre ces différents territoires qui traitent les différentes modalités sensorielles, motrices ou cognitives, eh bien, sont générés par des équilibres entre les niveaux d'expression de gènes de développement, ce qui fait que quand on modifie ces expressions, par exemple, on diminue un allèle de MX2 ou on en rajoute un, on peut faire bouger les bords, c'est-à-dire par exemple ici on augmente le cortex visuel aux dépens du cortex auditif ou du cortex somatosensoriel ou du cortex moteur, mais sans changer évidemment ici la surface générale. Donc ce sont des mécanismes qui ont dû jouer au cours de l'évolution ces bords ont changé. Hein. Ce que je vous disais aussi, c'est que cela relève, bien entendu, d'interactions entre gènes avec des inhibitions réciproques, c'est-à-dire que le bord se fait à l'endroit, hein, on peut penser à l'endroit, où un facteur de transcription va aller bloquer l'expression de l'autre, puisque sont ces dosages assez subtils entre les niveaux d'expression de ces facteurs qui placent les bords. Et donc, sur le plan physiologique, quand je dis assez subtil, ça veut dire que des petites variations du niveau d'expression dans un animal normal au cours de son développement peut bien sûr, dans un animal normal, modifier aussi la position des bords, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous le même cortex, même si nous avions le même génome. Hein, c'est-à-dire deux jumeaux homozygotes qui ont le même génome, par définition, eh bien, peuvent ne pas avoir les mêmes positionnements dans le cerveau si il y a eu des modifications dans le niveau d'expression de ces gènes au cours du développement. Et après tout, ce n'est pas grave, il y a une normalité. Et en même temps, il y a une force de robustesse, comme on l'a dit au départ, qui est liée à l'expression d'autres facteurs qui sont là pour assurer cette robustesse. Donc je vais vite après, en reprenant un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas été suffisamment clair. Ça ne veut pas dire que je vais l'être beaucoup plus aujourd'hui, enfin, je vais essayer. Hein. Donc voilà ici, par exemple, un bord qui nous a intéressé souvent, c'est le bord entre le mésencéphale et le métencéphale, avec rhombomère 1 et rhombomère 2. Et dans ce domaine-là, on a une expression d'un gène de développement qui s'appelle OTX2, l'un qui s'appelle GBX2, enfin bleu et rouge si vous préférez, et le bord se forme au niveau où ces deux facteurs de transcription entre guillemets se rencontrent. Ces zones, comme je vous l'ai signalé il y a deux cours, sont souvent des zones qui sont des zones de signalisation. Vous avez des molécules signalisatrices qui se mettent aux zones. Ici, par exemple, le FGF8, qui est un morphogène, est toujours à la frontière OTX2-GBX2 du côté GBX2. Pour WNT1, on a la même chose, mais c'est du côté OTX2. Et puis, évidemment, il y a des interactions entre les morphogènes et d'autres gènes de développement, ici, NGREL1, NGREL2, PAX258. Et ici, vous avez un autre bord entre NGREL et PAX6. par exemple. Et ici, vous avez des bords, évidemment, qui sont liés à OXA2, qui sont d'autres gènes qui sont, eux, exprimés, qu'on appelle les gènes OX, qui sont exprimés jusqu'à la frontière antérieure du rhombomère 2 au cours du développement. Alors, si vous bougez ces bords, il y a des façons de le faire. Alors, comme je l'avais dit aussi, ce bord OTXE-GBX2 est intéressant parce que du côté GBX2, non seulement vous avez FGF8, mais vous avez aussi des neurones sérotoninergiques. Vous savez, ce sont des neurones qui sont très importants pour le comportement. Un des grands antidépresseurs, qui est le Prozac, est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Vous avez aussi, à l'avant ici, les neurones dopaminergiques, qui sont les neurones du mouvement, et aussi les neurones du plaisir, ce qui n'est pas incompatible. Et aussi les neurones de l'addiction, puisque les neurones du plaisir. Donc, vous pouvez augmenter, si vous déplacez le bord, par exemple, supposez que vous exprimez OTX2 sous le contrôle de l'engrel 1, c'est-à-dire que vous avez un OTX2 qui va aller plus loin dans ce sens-là, vous allez repousser GBX2, et du coup, vous allez augmenter la quantité de neurones dopaminergiques. Si vous diminuez le nombre d'allèles OTX en supprimant OTX1 et en mettant un seul allèle OTX2, vous allez partir dans ce sens-là, vous allez diminuer le nombre de neurones dopaminergiques et augmenter le nombre de neurones sérotoninergiques. Donc ça correspond, si vous voulez, ça vous pouvez le voir parce que c'est à taille de cerveau égale. C'est-à-dire que vous jouez sur vos équilibres de facteurs de transcription, vous gardez un cerveau qu'à la même taille, mais vous déplacez les bords. Hein. Et ici, vous voyez par exemple, ici un animal où on a donné l'avantage à GBX2 en réduisant OTX, c'est-à-dire que GBX2 a pris le dessus sur OTX, donc il a avancé le bord. Vous voyez ici que votre isthme, qui est la frontière entre le mésencéphale et le métencéphale, là où j'ai du FGF8 normalement, ici j'ai mes neurones dopaminergiques, qu'est-ce qui se passe? Mon isthme est maintenant passé totalement à l'avant, j'ai pratiquement plus de mésencéphale, hein. J'ai juste du cortex et du métencéphale. Vous voyez que l'expression des FGF8 s'est énormément augmentée, je suis bourré de neurones sérotoninergiques, j'ai pratiquement plus de neurones dopaminergiques. Mais la taille totale de ma bestiole est la même. Et certains de ces animaux, dans ce niveau-là, j'ai des neurones dopaminergiques. Donc si j'augmente cette taille-là, j'ai repoussé ça dans ce sens-là, c'est-à-dire j'ai repoussé FGF8 de ce côté-là en mettant plus de TX2, ça fait que mon territoire V3 est plus grand qu'il devrait l'être, disons qu'il fait 2 carrés, il en a fait 1, donc je vais avoir 2 fois plus de neurones dopaminergiques. Et ça, ce sont des animaux qui peuvent aller à maturation, c'est-à-dire que les animaux, vous les laissez vivre, se développer, et ils vont aller à maturation, et vous pouvez regarder leur comportement, ça se voit très bien au niveau du comportement. Alors, par exemple, un animal ici à qui on a bougé le bord, une souris, et quand vous la regardez comme ça, vous ne pouvez pas vraiment voir la différence. Mais vous la mettez dans ce qu'on appelle un open field. Normalement, les souris, c'est ce sur quoi j'avais terminé la semaine dernière, normalement, une souris, vous la mettez dans un open field le jour, c'est un animal nocturne. Donc, elle s'agite un petit peu, puis au bout de 15 minutes, elle est dans un coin en train de roupiller. C'est comme ça que font toutes les souris dans la journée. La nuit, les souris bougent. Si vous rentrez dans une amérie la nuit, ça fait un bruit d'enfer. C'est l'enfer, d'ailleurs. Il se passe des trucs. Enfin bon. Toujours est-il que, pour les biologistes, c'est mieux. Parce que nous, on compte beaucoup sur la nuit pour reproduire nos souris. Donc, si vous avez maintenant une souris dans laquelle vous avez bougé l'isthme, en déplaçant l'expression de TX2, vous avez donc plus de neurones énergiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous mettez vos souris dans la cage et en fait, elles ne s'arrêtent jamais de bouger. C'est-à-dire qu'elles sont hyperactives. Hein. Et ça, c'est des mâles et ça, ce sont des femelles. Je vous disais l'autre jour qu'il y avait un biais lié au déséquilibre sexuel, un truc sexuel, mais au genre, pardon, au genre, qu'il ne faut pas confondre avec le sexe. Et on ne sait pas très bien à quoi c'est lié. Mais toujours est-il que ça vous fait des modèles, aussi des modèles animaux, hein, de désordres qui sont aussi des désordres qu'on peut voir chez Sapiens. Donc ce sont des expériences qui sont extrêmement intéressantes aussi du point de vue de la pharmacologie ou du point de vue de l'étude des pathologies ou de la mise en route de modèles qui sont des modèles qui peuvent servir aux gens qui s'intéressent à la pharmacologie. Donc c'est là que j'en étais arrivé la semaine dernière. Donc j'ai repris un petit peu parce que comme je vous disais, j'avais l'impression d'avoir été un tout petit peu confus ou un tout petit peu rapide, ou les deux, ce n'est pas compatible. En général, quand je suis trop rapide, c'est que je suis confus. Donc, et maintenant, je vais essayer de présenter deux modèles. Un des modèles, c'est le modèle classique, c'est le modèle dit cellule autonome, qui a été développé par énormément de chercheurs, en particulier par Tom Jessel et par Andrew Lumsden. Là, je me fonde beaucoup sur un article publié par Lumsden, Kicker et Lumsden, en 2005, et qui est, reprend le schéma le plus classique. Dans le schéma classique, vous avez ici un champ morphogénétique, disons, d'une centaine de cellules carrées, disons 100 sur 100. En gros, c'est à peu près ça que ça ressemble, un champ morphogénétique au cours du développement. Et en jaune ici, ce que j'ai tracé, c'est un morphogène qui diffuse hein, depuis ici jusque-là, ou depuis là jusqu'ici, si vous voulez. Donc, ça peut être du FGF8, ça peut être du WNT, ça peut être n'importe quelle molécule qui est censée diffuser dans le champ morphogénétique. Et du fait de la dilution de ce morphogène au cours de sa diffusion, chaque cellule dans le champ va avoir une concentration particulière de ce morphogène. Et du coup, exprimer des facteurs de transcription différents, ici très fortement le bleu, ici très fortement le rouge, et puis un gradient de bleu vers bleu pâle et de rouge vers rouge pâle. Et dans cette théorie, qui est celle de Lumsden et de beaucoup de gens, hein, en fait, pour ne rien vous cacher, dans cette théorie, eh bien, ce que nous avons, c'est toujours l'idée que les deux facteurs de transcription sont des antagonistes l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand ils sont exprimés dans la même cellule, il y a une fluctuation, mais dès que j'arrive à une certaine différence de concentration, the winner takes all, d'accord ? C'est-à-dire celui qui a, dès qu'il y a une différence de concentration, il réprime celui qui est le plus bas et il s'auto-active, donc du coup, il prend tout. Donc, à un certain moment, je ne vais avoir que du rouge ou que du bleu, hein, au bord. Mais je n'ai pas forcément, comme c'est un phénomène stochastique, je n'ai pas forcément à avoir un bord net. Hein. Je peux avoir un bord comme ça, avec du rouge ici, du bleu, puis des trucs qui dépassent. Donc, pour avoir un bord net, comme je l'ai dessiné ici, il faut que soit les rouges migrent en arrière vers les rouges, que les bleus migrent vers les bleus, ou que ceux qui sont mal placés meurent, ou que ceux qui sont mal placés changent de position, c'est-à-dire que les rouges deviennent bleus. Hein. Et l'un quelconque de ces mécanismes doit faire en sorte qu'au bout du compte, j'arrive à un système où j'ai une exclusion de mes deux domaines, donc un bord. Hein, imaginez que ce soit SOTX2 et ça soit GBX2. Eh bien, à ce moment-là, j'ai un bord. Ici, j'aurai mes neurones dopaminergiques et ici, mes neurones sérotoninergiques. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne bien. Le voilà ici, c'est le même. Mon morphogène, mon gradient, mon gradient de bleu. J'ai aussi un gradient de rouge dans l'autre sens. C'est exactement ce que je vous ai montré. Et puis ici, eh bien, du fait que le bleu va gagner ici, ça se voit tout de suite. Hein. Le rouge va gagner ici, ça se voit tout de suite, et je vais avoir une frontière. Ce que l'autre modèle, qui est le modèle que nous avons proposé, c'est qu'au fond, les morphogènes ne diffusent pas tant que ça. Hein, ça, c'est, je pense, la base de la chose. Donc, j'ai des morphogènes ici qui diffusent très peu au départ, mais j'ai ici le facteur bleu qui passe dans la cellule d'à côté, qui active le bleu, etc., de façon récurrente. C'est-à-dire que ce morphogène ici n'a besoin de diffuser que d'un rang de cellules pour activer sa propre synthèse de l'autre côté, parce qu'il rentre dans les cellules de l'autre côté. Ce morphogène étant, en l'occurrence ici, un facteur de transcription de la classe des protéines homodomaines. Et puis pareil pour les rouges, mais comme j'ai la même règle que bleu active bleu, active rouge, et qu'ils s'inhibent réciproquement, finalement j'arrive à la même conclusion, qui est que je fais un bord, c'est-à-dire que je peux avoir le même résultat avec les deux modèles. Donc personne ne sait aujourd'hui lequel des deux modèles est le bon, hein. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais je suis de parti pris. Hein. Je peux aussi avoir un système dans lequel je vais avoir un seul morphogène qui va exprimer, en fonction de concentration, trois homéoprotéines. Évidemment, à ce moment-là, je peux avoir trois bords. Et vous voyez que, de même, je peux donc ici déplacer mes bords bleu et vert, peut-être passer par là, rouge et bleu par ici. Ce que j'aime bien dans le modèle que nous travaillons dans notre laboratoire et en collaboration avec d'autres équipes, ce que j'aime bien, c'est qu'il tient compte du fait d'abord que les facteurs de transcription de cette classe passent de cellule à cellule, c'est un fait. Ils tiennent aussi compte du fait que les morphogènes ne diffusent peu, donc je pense que notre modèle est plus intéressant d'un certain point de vue, même s'il n'est pas démontré. Il y a aussi un intérêt pour les types qui sont mal placés, hein, le rouge qui est au milieu des bleus. Il crache du rouge à l'extérieur, mais qu'il reçoit le bleu de tous ceux qui sont de l'autre côté, il va facilement changer de position, il va devenir bleu, parce que comme bleu active bleu et réprime rouge, c'est une façon pour lui de évidemment s'intégrer dans un milieu si il n'avait pas été de la bonne couleur au départ. Donc ça, ce serait un avantage. Donc nous étudions actuellement cette idée sur un modèle qui est le modèle 2 en collaboration avec le laboratoire de Jean-Léon Thomas, sur le modèle qui est le modèle des bords le long de l'axe dorso-ventral dans le tube neural. Vous voyez ici que les bords aussi ici dépendent, sont à la frontière de l'expression de facteurs de transcription, pour beaucoup d'entre eux de protéines hémodomaines. Et une des façons de faire, c'est de bloquer le passage de ces facteurs de transcription et de voir si par hasard on est capable de déplacer les bords, soit en voyant les bords déplacés, soit en regardant le lignage des cellules qui sont exprimées en fonction évidemment de leur position. Parce que ce que vous voyez ici, c'est que ça me fait des territoires, hein, des combinatoires de, gènes de facteurs de transcription qui déterminent des identités de territoire. Et en fonction de ces identités de territoire, évidemment, ce sont certaines classes de neurones qui sont générées dans ces différentes situations. Donc, si nous progressons, eh bien, nous vous le raconterons peut-être l'année prochaine. Ça peut marcher dans un système où on a un champ morphogénétique qui est suffisamment petit pour se contenter d'un seul morphogène. Évidemment, si le champ s'accroît énormément, on peut avoir deux morphogènes de côte à côte, mais fondamentalement, si vous voulez, le principe est celui-là. Et les deux modèles ne sont d'ailleurs pas en contradiction. Maintenant, on va voir, on va faire des manips. Hein. Donc, je passe maintenant à la partie plus évolution, parce que nous sommes censés traiter aujourd'hui de l'origine de Sapiens. Donc, pour ce qui est de l'évolution du cortex, pratiquement tous les cortex de vertébrés ont quatre territoires au moins, c'est-à-dire sensoriel auditif, sensoriel moteur, sensoriel visuel, sensoriel auditif, sensoriel sensorimoteur, sensoriel visuel, j'en oublie un, c'est pas très grave, et puis une région motrice, hein, visuel 1, auditeur 1 et sensoriel 1. Chez les monotrèmes, hein, ou les marsupiaux, monotrèmes par exemple c'est l'ornithorynque, on ne sait pas très bien s'il y a un cortex moteur, il est possible qu'il soit combiné avec le cortex sensoriel, donc les gens ne sont pas sûrs qu'il y a un cortex moteur. Mais au cours de l'évolution, vous avez une modification de la taille, bien entendu, du cortex, hein, vous voyez qu'ici les régions blanches, qui sont soit multimodales, c'est-à-dire qu'elles répondent à plusieurs modalités sensorielles ou motrices, soit différentes, c'est-à-dire par exemple associatives, c'est-à-dire qui sont impliquées dans la cognition en particulier. Vous voyez que ici, par exemple, l'aire sensorielle primaire est extrêmement réduite chez Sapiens par rapport à la taille totale du cortex. Si vous comparez avec un macaque, par exemple, vous voyez que chez le macaque, qui a un cerveau qui doit être à peu près 10 fois plus petit que le nôtre, un chimpanzé, c'est un cerveau qui est 3 fois, 4 fois plus petit que le nôtre. Mais ce que vous constatez, c'est que non seulement il est plus petit, mais que si vous voyez la taille, par exemple, la taille des aires visuelles que j'ai mis en bleu ici par rapport à la taille des aires visuelles chez l'homme, elle est beaucoup. Alors, c'est pas uniquement une question de taille, c'est aussi une question de taille respective des différents territoires. Donc, on augmente ou on diminue la taille, mais en même temps, l'appartement grandit ou diminue, mais par exemple, je mets plus de place pour la salle de bain et moins pour le salon, etc. Donc, l'évolution joue sur cette question. C'est pour ça que cette question des bords, au cours de l'évolution et au cours du développement, est une question extraordinairement importante si on s'intéresse évidemment à ces problèmes. Hein. Ici, la souris, par exemple, vous avez des aires sensorielles qui sont extrêmement développées et puis des aires visuelles qui sont beaucoup plus petites que chez le singe ou que chez le chat. Et par contre, le mouton, lui, il a des grandes aires visuelles, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il n'y a rien à voir pourtant, mais ce n'est pas grave. Comment ? Qui sait, oui. Il faudrait lui demander. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends par là? Par là, j'entends pas grand-chose. Donc, il n'y a pas uniquement. Alors, la permanence, si vous voulez, de ces aires signifie que. Sur le sens, vous prenez un animal et qui a perdu la vue, par exemple, une taupe. même si une taupe ne voit plus, une taupe a encore un résidu d'air visuel. De même, si je modifie les afférences de mes neurones sensoriels, vous allez voir ça, je peux modifier la taille d'un système sensoriel. Mais je ne l'élimine jamais. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une composante génétique, au départ, dans la construction du système. C'est-à-dire que même si l'usage perdu à travers l'évolution, comme dans le cas des taupes, ou perdu simplement parce que je retire les yeux à la souris pour en faire une taupe, elle va perdre du système visuel dans le cortex, mais elle va en garder quand même un petit peu. Ce qui prouve qu'il y a, toujours un élément génétique fondamental qui reste dans sa paire. Il reste que, néanmoins, même si j'ai un élément génétique fondamental, il n'empêche que c'est plastique au sens où la représentation des organes sensoriels au niveau, au niveau du centre, du système nerveux central, nécessite l'utilisation de ces organes sensoriels. Une représentation, je veux dire, conséquente. Hein. C'est-à-dire qu'au cours du développement, il y a des périodes qu'on appelle des périodes critiques, au cours desquelles, si vous déprivez un animal deux afférences sensorielles, eh bien, son cerveau ne va pas se développer, ne va pas développer les régions qui sont censées analyser justement cette modalité sensorielle. Et ça peut être relativement subtil. Vous voyez ici ce qu'on appelle les vibrisses chez une souris, c'est-à-dire des terminaisons nerveuses qui sont placées sur le museau de la souris. Il y en a un certain nombre. Je pense que là, j'ai mis au hasard, mais enfin, disons qu'il y en a. Là, je crois que ce n'est pas au hasard, je les ai comptés. Donc, mais là, c'est ce qui se passe à la périphérie. Vous montez via les ganglions trigéminales, via un relais thalamique, via le cortex, l'information vers le système nerveux central. Et en fait, dans le système nerveux central, chaque terminaison nerveuse est représentée par une petite structure où il y a plusieurs cellules qui s'appelle un tonnelet, un petit tonneau, dans lequel vous avez quelques milliers de neurones. Donc vous pouvez retirer une rangée de vibrisses, c'est ce qui a été fait ici, ce que symbolisent ces ciseaux. Donc cette rangée de vibrisses ici a été retirée, et vous voyez que ce qui se passe au niveau du cortex, c'est que vous perdez cette représentation, pas entièrement en fait, mais vous la rétrécissez énormément, et que ceux qui sont autour, eux, ils gagnent du terrain, c'est-à-dire qu'ils vont aller remplacer ceux qui sont perdus. Et ça, c'est la preuve de la plasticité de vos systèmes, et cette plasticité n'a lieu que pendant une période critique. C'est-à-dire que si vous faites ça avant 7 jours, ça marche. Si vous faites ça à 3 semaines chez votre souris, vous aurez toujours vos tonneaux qui sont présents. C'est-à-dire que vous aurez le membre absent dans le cerveau, même si vous ne l'avez plus à la périphérie. C'est pour ça que quand vous coupez un bras, il faut le couper tôt, c'est-à-dire avant la période critique. Sinon, vous aurez mal au membre absent. Donc, c'est ce qui se passe en général. Et ça, ça indique de nouveau que même si vous avez génétiquement inscrit la construction de votre périphérie au centre, si vous ne faites pas marcher le système, eh bien, évidemment, vous ne construirez pas un cerveau. C'est comme ça que le cerveau, évidemment, s'adapte au milieu. Donc, où est-ce que j'en étais là? Je ne sais plus à quelle diapositive j'en suis. Ce n'est pas très grave. Donc, je nage dans le vague, là. Vous ne m'en voudrez pas. Donc, période critique, sur laquelle je ne vais pas développer aujourd'hui, cette période critique est liée, pour une grande partie, à la maturation de ces neurones, qui sont des neurones GABAergiques, donc ces interneurones, dont je vous ai dit il y a 15 jours ou 3 semaines, qui n'étaient pas générés au niveau du cortex, mais qui se générait au niveau du subpallium, c'est-à-dire en dessous de cette frontière ici, qui n'est pas une vraie frontière puisque les neurones peuvent passer, hein, mais qui est quand même un bord, et qu'ils viennent des éminences ganglionnaires, médianes, latérales et aussi caudales. Et en fait, ces neurones migrent dans le cortex, et la période critique, ça correspond à la maturation de ces neurones. C'est-à-dire que quand ces neurones sont en maturation, j'ouvre une paire de plasticité, quand ils sont mûrs, je ferme la période de plasticité, et quand je n'ai pas commencé à mûrir, je n'ai pas ouvert la période de plasticité. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas plastique quand vous êtes jeune et vous cessez de l'être à un certain âge. Vous n'êtes pas plastique, vous l'êtes et vous cessez de l'être. Et cette période de plasticité est différente pour toutes les modalités du système nerveux. Hein. Par exemple, la puberté correspond à une période critique, très critique, hein, extrêmement importante, qui commence relativement tardivement, comme vous le savez, parce qu'elle est déclenchée par l'arrivée des hormones, bien entendu, mais c'est un moment où le monde change. On ne vous regarde pas de la même façon et vous ne regardez pas le monde de la même façon. Et ça, ça correspond aussi à des changements qui doivent se produire dans le système nerveux. Car s'ils ne se produisent pas, ça provoque des catastrophes. Il y a des théories qui disent que certaines maladies psychiatriques pourraient trouver leur origine dans, justement, un mauvais passage de cette période critique, qui est une période évidemment fondamentale pour tous les animaux. C'est une métamorphose. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que, aussi au cours de l'évolution, mais dans une aire sensorielle elle-même, à l'intérieur même d'une aire sensorielle, pour toutes les espèces, ce ne sont pas les mêmes organes qui sont représentés de façon importante. Hein. Par exemple, ici, voilà une souris normale. Enfin bon, autant que j'ai pu dessiner une souris normale avec la tablette. Mais disons que c'est une souris. Mais voilà la souris telle qu'elle est représentée dans son cortex. Hein. Donc ça, c'est ce que j'appelle la souris du miroir. Si la souris pouvait se voir dans un miroir, c'est ça qu'elle verrait. Mais ça, c'est ce qu'il y a dans le cortex sensoriel. Donc, quelle est la vraie souris ? J'en sais rien. Après tout, il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, bien entendu. Mais vous voyez que c'est extraordinairement déformé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homonculus sensoriel, eh bien, c'est quasiment entièrement un museau qu'on a chez la souris. Chez l'ornithorynque, c'est le bec. Parce que vous savez que le bec chez l'ornithorynque est un organe sensoriel extraordinairement développé, avec un très grand nombre de terminaisons. Il n'a quasiment qu'un seul bec dans le cerveau. Quasiment, le cerveau est un bec. Chez Sapiens, ce que vous avez, c'est une grande représentation de la langue et du pharynx, une grande représentation de la bouche que vous pouvez voir ici, les yeux, pas beaucoup, le nez, pas beaucoup, la main, une énorme représentation, vous pouvez voir, tout le reste du corps n'a même pas la taille de la main au niveau du cortex, et vous avez aussi le pied et les organes génitaux, dans le sensoriel. Hein. Et curieusement, les organes génitaux sont sous le pied, alors... Peut-être que c'est la base des massages de pieds, peut-être que ça irradie ailleurs, peut-être que je ne sais pas. C'est une hypothèse qu'on peut faire, pourquoi les gens se font masser les pieds avec tellement de plaisir. Peut-être que c'est simplement parce que les terminaisons nerveuses sont très près des organes génitaux. Enfin, je vous livre ça, c'est une possibilité. Pour ce qui est du orofacial, c'est plus simple de comprendre, c'est lié énormément à la capacité linguistique, c'est-à-dire que parler demande une extraordinaire sensibilité des organes sensoriels et moteurs au niveau du pharynx, au niveau de la bouche, au niveau de la langue. Et vous verrez que les gènes mutés, en particulier FOXP2, dont je vous parlerai peut-être la semaine prochaine, est impliqué dans cette extraordinaire subtilité hein, qui fait que, en réponse à des informations de type extrêmement abstraite, hein, vous allez mettre en place un système sensorimoteur qui vous permette de donner des sons qui ont du sens. Par exemple, donner un cours à des collègues. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça demande, pas le cours, mais sur le plan moteur, c'est quelque chose de très, très difficile. Pareil pour la main ou pour le pied, qui sont des organes d'une très grande sensibilité, justement, parce que la main chez l'homme, en particulier, est très développée sur le plan sensorimoteur. Donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est une représentation de la surface d'innervation que vous avez à la périphérie. Donc, c'est peut-être ça qui est vrai. Alors, bien entendu, le système monte depuis la périphérie. Donc, vous avez ici le système sensoriel qui monte vers le thalamus, qui passe au cortex, vous avez l'interaction cortico-corticale, et puis vous redescendez vers le système moteur et sécrétoire. La périphérie, eh bien, ce sont des systèmes sensoriels qui sont encodés pour beaucoup au niveau de l'adaptation par les gènes OX qui sont ici présents et l'activité de votre système sensoriel va déterminer évidemment la représentation au niveau thalamique et au niveau cortical des différents organes. Vous avez vu que j'ai mis des très grandes mains et des très grandes lèvres à ces deux homonculi qui sont des homonculi cérébraux et qui ne sont pas dessinés sur une palette graphique, c'est pour ça que c'est plus simple. Donc deux choses d'abord. Donc maintenant, on voit à peu près pourquoi je vous ai parlé de ces facteurs de transcription, pourquoi je vous ai parlé de ces histoires de bords. Mais il n'y a pas évidemment que les bords, il y a aussi la taille. Hein. Je vous disais, entre le chimpanzé et nous, quand même 7 millions d'années de différence, c'est-à-dire qu'on a commencé à diverger il y a environ 7 millions d'années, nous avons un cerveau qui est environ 3 à 4 fois plus grand que le cerveau d'un chimpanzé. Quand je dis 3 à 4 fois plus grand, je parle de la surface. Hein. C'est-à-dire que le cortex, ce n'est pas un volume, c'est une surface. C'est 2 mètres carrés de cortex chez nous. Hein. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, l'épaisseur d'un cortex est très faible, c'est 3 mm. Hein. Donc, nous avons une très grande surface. Et cette très grande surface, comment est-ce que ça a augmenté ? Donc, on pourrait dire, par exemple, chez les souris, c'est exponentiel. C'est-à-dire que si vous prenez des souris, vous regardez, ou un rat, donc prenez des rongeurs, qui ont des cerveaux de taille différente, en fait, ça ne correspond pas à une augmentation proportionnelle du nombre de neurones. Hein, vous avez plus de glies qui poussent, okay, les glies sont très importantes. Vous avez des neurones plus gros quand vous êtes un rongeur plus gros. Bon. Donc, mais alors, si vous deviez faire ça pour Sapiens, je dirais, vu la taille de notre cerveau, alors j'avais calculé ça. Alors, ces tailles sont extrêmement variables, hein, c'est-à-dire que il y a 200 millions d'évolutions chez les vertébrés, en gros, et la taille du cortex peut varier de facteur 1 à 100 000. Donc c'est pas mal quand même comme variabilité. Enfin, pas au sein d'une même espèce, entre les différentes espèces. Il y a 4600 espèces actuellement vivantes. Donc, chez nous, l'encéphalisation s'est accompagnée non seulement d'une augmentation de la taille du cortex, mais aussi de modification des bords, mais aussi de l'apparition de nouveaux champs corticaux. Et alors là, on ne sait pas comment ça apparaît, un nouveau champ cortical. J'ai essayé de chercher comment les gens ont imaginé ça, et je n'ai rien trouvé. Et ces augmentations de taille, bien entendu, sont toujours liées soit à une régulation de la prolifération cellulaire, plus de cellules, soit de la mort cellulaire, moins de mort cellule, et rien d'autre, j'imagine, ou de la taille des cellules. On peut aussi imaginer la taille des cellules, bien entendu. Alors, si je prends ce que je sais des souris et que j'extrapole à ce qui se passe aux primates avec une loi hyperbolique, hein, alors avec 100 milliards de neurones, j'ai calculé qu'on aura un cerveau de 45 kilos, pas mal, pour un corps de 109 tonnes, une baleine, quoi. Donc, honnêtement, enfin, tel que je nous vois ici, on n'entrerait pas dans la salle. Donc la loi n'est pas hyperbolique pour les primates. Et en fait, effectivement, la loi n'est pas hyperbolique. S'il y a 10 fois plus de neurones entre deux primates, il y a 10 fois plus de neurones, il y a 12 fois plus de glies, et le cerveau est simplement 11 fois plus gros. Donc en gros, c'est relativement proportionnel. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer ici. Hein. Voilà ici l'espèce, un marmoset, un galago, un owl monkey, un squirrel monkey, un capuchin monkey, un macaque. Et vous voyez que là, c'est la masse du corps, hein, en grammes. Voilà. Ici, vous avez la masse du cerveau, en grammes. Ici, vous avez le nombre total de neurones, multiplié 10 puissance 6, le nombre total de glies, non-neurones. Hein, et ici, vous avez le rapport entre le marmoset et le macaque, plutôt entre le macaque et le marmoset. Vous voyez que, globalement, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez une loi de proportionnalité qui est quelque chose qui est spécifique des primates. Hein. Et nos cellules ne sont pas plus grosses que celles d'un macaque. On en a plus, voilà. Donc, mais elles ont la même taille. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir ça ? Donc, comment est-ce qu'on peut avoir plus de cellules ? D'abord, est-ce qu'on peut avoir plus de cellules en augmentant le temps du développement ? C'est-à-dire que si je me développe plus longtemps, j'aurai des progéniteurs qui vont proliférer plus longtemps. Donc, ça, ça a été regardé chez, voilà ici, je crois que ça, c'est un, oui, ça c'est un humain en bleu. Et ça, c'est un chimpanzé, c'est Pan troglodytes. Et ça, c'est un crâne qui a été trouvé, un crâne d'Erectus. C'est un enfant Erectus qui aura entre 0,5 et 1 an, on ne sait pas très bien. Alors, comme vous savez, le cerveau, ça ne fossilise pas. Mais on peut avoir une petite idée de la taille du cerveau en regardant quand on regarde l'os, quoi, quand on regarde le crâne, qui, lui, a été fossilisé. Cet Erectus a été retrouvé sur l'île de Java. Et ce que vous voyez, c'est que à la naissance, un humain a environ 10% de la taille de son cerveau. C'est-à-dire que la taille d'un cerveau humain, à la naissance, c'est 10% de sa taille adulte, disons 140 grammes. Hein. Alors chez un chimpanzé, à la naissance, il a déjà 50% de son cerveau. Donc ça, c'est un temps de développement qui est beaucoup plus lent chez Sapiens. Et en fait, j'ai mis 100% à 8 ans, mais j'exagère un tout petit peu, je pense que c'est encore un petit peu plus tardif. C'est-à-dire que ça continue à pousser relativement longtemps. Et Erectus m'a beaucoup déçu, je dois dire, parce que Erectus est beaucoup plus près du chimpanzé que de nous. C'est-à-dire que lui, il serait plutôt, et même là, je l'ai un petit peu favorisé, parce que bon, j'ai un petit faible pour les hominidés, malgré tout. Mais en fait, Erectus est... Alors, il y a une variabilité parce qu'ils ne savent pas s'il avait entre 0,5 et 1,5 années. Donc ça peut jouer sur la véracité de cette position. Donc j'ai mis entre les deux. Voilà.
Avec indulgence du jury. Donc je vais maintenant me concentrer un tout petit peu sur la chose qui me paraît la plus importante pour l'augmentation de la taille du cerveau. C'est la prolifération des cellules. Hein, parce que de toute évidence, c'est quand même la durée du temps où les cellules prolifèrent qui amène une augmentation de la taille du cortex, très probablement. Même si on ne peut pas exclure une diminution de la mort cellulaire, hein, ça va de soi. Donc, ici, ce que je vous ai mis, c'est chez un rat. Les rats naissent après 22 jours de gestation, c'est ce qu'on appelle P0 ou E22. Et je vous ai montré ici le développement, la cinétique de taille des différentes couches du cortex. Donc au départ, vous avez une priplate, hein, ce qu'on appelle la priplate, ici en jaune, et puis pratiquement pas de cellules, quoi. C'est une couche de cellules. Hein. Donc vous avez donc une prolifération de cellules avec l'apparition de ce qu'on appelle la zone ventriculaire, que j'appelle en bleu, qui est la zone où normalement les cellules prolifèrent. Hein. Vers E14-15, vous avez l'apparition d'une autre zone qu'on appelle la zone sous-ventriculaire. La SVZ. Hein. Quelque chose qui a été remarqué il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, en 1976, un symposium à Boulder, on ne parlait pas de la zone sous-ventriculaire. C'est qu'elle est apparue plus tard dans la littérature. Et c'est une zone où il y a aussi la prolifération, et j'y reviendrai. Et vous voyez que je passe par un maximum vers E16, et puis ensuite je redescends, c'est-à-dire que ces zones diminuent, et la zone sous-ventriculaire continue à exister chez l'adulte, hein, après. Votre priplate se divise en deux, hein, pour donner ce qu'on appelle la subplate dans l'épaisseur du cortex, et ici ce qu'on appelle la zone marginale, qui est en fait la couche 1 du cortex, celle où il y a une classe de cellules particulières qui s'appelle les cellules de Caral rhesus, sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine quand je parlerai d'éléments qui évoluent très vite chez l'homme, qu'on appelle les Human Accelerated Regions, qui s'appelle HAR, il y en a une qui code pour un facteur qui est exprimé par les cellules de cette couche-là. Et puis, entre les deux, évidemment, dans ce qu'on appelle la plaque corticale, vous avez les six différentes couches qui sont caractéristiques des mammifères, hein, avec la couche 1, évidemment, la couche 2, 3, la couche 4, la couche 5, la couche 6. Et ici, vous avez ce qui va donner la matière blanche. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe chez un rat et aussi, évidemment, chez une souris. Donc, l'autre chose qu'il faut savoir quand on discute ces questions, c'est que les cellules sont générées ici, hein, et donc elles migrent pour aller constituer les différentes couches du cortex. Hein. Et cette migration est une migration qu'on a dit en inside-out. Ça veut dire quoi en inside-out? Ça veut dire que si ici j'ai une première glie radiaire, qui sont en fait les progéniteurs neuraux, hein, qui se divisent pour donner une autre glie radiaire et un premier précurseur de neurones que je vais appeler le numéro 1. Autant 2, je vais faire le numéro 2. Enfin, c'est simplifié. Hein. Autant 3, je vais faire le numéro 3. Est-ce que vous voyez que quand je regarde ensuite autant 4, le 1 est là, et le 2 qui a été généré après, il n'a pas poussé le 1 vers l'eau, il est passé par-dessus et s'est mis derrière. Le 3 est passé par-dessus, le 4 est passé encore par-dessus, etc. Ça veut dire que plus je suis généré tard, au niveau de la zone ventriculaire ou subventriculaire, et plus je suis dans les couches superficielles du cortex. C'est vrai pour tout le cortex, sauf pour le cortex cérébelleux. Et c'est ce que les gens appellent le développement en inside-out, parce que ce qui était à l'intérieur va à l'extérieur, intérieur, extérieur. Donc ceux qui sont générés le plus tard à l'intérieur sont ceux qui sont le plus affaibliés. Si j'en parle, c'est important parce que vous allez voir que chez Sapiens, la zone subventriculaire, qui est active très longtemps, va générer énormément de neurones tardifs qui vont aller se mettre dans les couches supérieures, en particulier dans les couches 2 et 3, qui sont des couches qui sont très très développées chez Sapiens.
vous avez toute une quantité de neurones glutamatergiques, mais ce sont énormément de neurones GABAergiques. Et si Sapiens est Sapiens, c'est parce qu'il a de grosses couches 2 et 3, en même temps qu'un très grand cerveau, bien entendu. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, ici, par exemple, chez les, un rongeur, vous avez les couches 6, 5, 4 que j'ai mis en bleu, les couches 2 et 3 qui sont quasiment fusionnées ici en rouge, et la couche 1, qui est une couche un petit peu particulière, sur laquelle je ne développe pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, si j'ai le temps. La semaine prochaine, nous resterons peut-être, si vous voulez, un petit peu plus longtemps. J'aimerais bien terminer le cours. Donc, ne prévoyez pas un thé dansant à 18h30. Retardé jusqu'à 19h. On partira vers 16h30, sauf si j'ai terminé avant. Peut-être qu'aujourd'hui, on dépassera un petit peu, mais je ne suis pas sûr. Donc, chez les primates, autres que les humains, ce que vous avez, c'est une augmentation des couches superficielles aussi, avec, vous voyez, que 2 maintenant est bien séparé de 3, et même 3 peut être séparé entre 3B et 3C, par exemple. Hein ? Et puis, chez les humains, de nouveau, ce que vous avez, c'est une augmentation encore de ces couches-là, avec 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. C'est-à-dire que, et ça, ce sont des neurones qui sont générés tardivement. Et tardivement, justement, à partir de la zone subventriculaire, hein, qui est une zone très importante pour ce qui est de la génération des neurones tardifs. Donc, si maintenant je regarde un tout petit peu un cerveau de singe, voilà ici un macaque, aussi un cerveau d'humain, vous voyez que la zone subventriculaire chez Sapiens est extrêmement importante comparée à une zone subventriculaire chez un macaque. Hein. Et ça, ce sont des animaux pris au même stade, E94 subventriculaire, et ça, c'est la 24e semaine de gestation. C'est un embryon de 6 mois. Hein. Et c'est là où on va avoir les plus grandes zones subventriculaires, les plus épaisses, qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle les gyries, c'est-à-dire les circonvolutions, l'extérieur des circonvolutions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation entre la taille, l'épaisseur de la zone supranticulaire, c'est-à-dire là où se prolifèrent les cellules, et l'apparition de ces bulges, hein, qui sont... On n'a pas un cerveau lisse. Sapiens n'a pas un cerveau lisse. Hein. Les singes ont un cerveau assez lisse. Hein. Les chimpanzés sont déjà un tout petit peu plissés. Les chimpanzés sont quand même assez proches de nous. Donc, cette zone supranticulaire est extraordinairement importante pour ce qui est de la prolifération des cellules chez les animaux, chez les vertébrés. Donc comment ça se passe ? Ben, au départ, dans la zone ventriculaire, vous n'avez que des progéniteurs. Hein. Alors je vous ai dit, ces progéniteurs sont ce qu'on appelle aujourd'hui des glies radiaires, c'est-à-dire des cellules qui s'étendent depuis l'extérieur du cerveau, la pia, qui est ici, et puis ici, la zone ventriculaire. Et là, vous avez ces neurones ici, qui sont donc des progéniteurs, on va les appeler des précurseurs, des progéniteurs, qui se divisent, 1 donne 2, 2 donne 4, etc. Donc plus vous allez augmenter le temps de division, plus vous allez avoir un cortex important, bien entendu. Donc ça, c'est une chose importante. Ou la vitesse de division, bien entendu. Hein. Ou raccourcir le temps nécessaire à la division. Hein. C'est-à-dire que dans le même temps, vous offrez plus de cellules. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut jouer si on veut augmenter la taille de son cortex. Ici, ce que vous avez marqué, c'est l'apparition de la SVZ. Et donc, je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une division, je fais une cellule souche, et puis là, je fais un précurseur de neurones, puis un autre, puis un troisième, et comme vous voyez ici, inside out, celui qui a été généré le dernier, c'est celui qui va aller le plus haut. Hein. Ici, ils ont des petits poils, ça veut dire qu'ils sont différenciés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà poussé des neurites, en gros. Hein. Mais je peux évidemment augmenter encore la capacité à faire des cellules, Si j'invente des progéniteurs intermédiaires que j'ai mis ici en jaune, c'est-à-dire que ma cellule souche va redonner une autre cellule souche, c'est cette petite flèche ici, donc là on fait une deuxième, et l'autre cellule se transforme en progéniteur, pas tout de suite en neurone, en progéniteur, qui lui va se rediviser deux fois pour faire deux. Donc là j'augmente d'un facteur 2 la capacité de faire des neurones. Et je peux aussi avoir des progéniteurs qui vont se diviser en deux autres progéniteurs, et tout ça évidemment ça contribue à augmenter la surface de ma zone subventriculaire, hein, plutôt son épaisseur. Et la corticale plate, ici, c'est là où poussent mes cellules. Donc, en fait, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que j'ai eu une amplification du nombre de cellules, ce qui m'a permis de me payer un cortex de 2 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. Alors, en même temps, au fur et à mesure que mes cellules souches prolifèrent, hein, Elle compte, et 1, et 2, et 3, et 4, hein, c'est comme dans les cours de danse, elle compte, et quand elles comptent, elles peuvent exprimer des gènes de développement différents. C'est-à-dire, par exemple, quand j'aurai compté 5 tours, je vais faire le gène vert, une combinatoire de gènes que je vais appeler verte. Puis ensuite, je vais faire une combinatoire de gènes que je vais appeler bleu. Puis ensuite, je vais faire une combinatoire de gènes que je vais appeler rouge. C'est-à-dire que ces cellules qui vont migrer dans des couches différentes parce que les plus tardivement différenciées vont migrer le plus haut, n'expriment pas forcément la même combinatoire de gènes de développement que ceux qui ont été générés le plus tôt. Ce qui veut dire que ce système permet d'avoir un codage de la position dans la dimension Z. Parce que jusqu'à maintenant, hein, rappelez-vous, j'ai considéré que le cerveau, c'était un plan. Donc je vous ai codé ça devant, derrière, dessus, dessous, en X, Y. Mais je ne vous ai jamais parlé de la dimension Z. Là, je vous parle de la dimension Z. Donc vous avez d'abord la dimension X, Y, c'est-à-dire que si je suis un progéniteur de cette région du cerveau, je ne vais pas faire les mêmes gènes, je ne vais pas avoir les mêmes gènes que les progéniteurs de cette région-là, mais ensuite, en fonction de l'épaisseur, de la position où je suis maintenant dans la dimension Z de mon cortex, je ne vais pas non plus avoir le même type de facteur de transcription. Ce qui fait que si je connais les combinatoires X, Y et Z, je sais exactement quel neurone je suis et à quelle position je suis dans maintenant les trois dimensions qui constitue évidemment un système nerveux central, parce qu'on n'a pas un système totalement plat.
Enfin bon, beaucoup d'entre nous. Je dirais tous, voilà.
Alors, chez Sapiens, c'est encore un truc qui parce que sinon, Sapiens est une drôle de bestiole qui ne fait rien comme tout le monde, hein. On le savait. Mais donc, j'ai repris un peu les travaux de Kriegstein, en fait, cette revue là qui est assez intéressante, la revue de Nature and Reviews Neuroscience de 2006, qui décrit ça relativement bien. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que en plus de l'augmentation de la SVZ chez Sapiens, on voit aussi une augmentation des éminences ganglionnaires. Hein? Voilà. Donc en fait, chez Sapiens, il y a aussi une augmentation des éminences ganglionnaires assez importante qui est liée, qui explique pourquoi chez Sapiens on a plus de neurones GABAergiques. Parce que les neurones interneurones inhibiteurs qui viennent ici se mettent aussi dans les couches 2, 3, 4, 2, 3, je veux dire, ces fameuses couches qui augmentent chez Sapiens. Elles sont bourrées aussi de neurones GABAergiques qui viennent des zones des éminences ganglionnaires médianes essentiellement. Et aussi, exceptionnellement chez Sapiens, les neurones de la SVZ font des neurones GABAergiques. Hein. Chez tous les animaux, ces neurones ne font que des neurones glutamatergiques. C'est-à-dire que, et la zone ventriculaire ou subventriculaire ne fournit pas d'interneurones inhibiteurs. Sauf chez Sapiens, on a aussi une population de neurones inhibiteurs qui vient de la zone subventriculaire. Donc en fait, Sapiens, c'est non seulement une grande taille de cerveau, c'est non seulement des bords qui sont différents, mais c'est aussi une épaisseur des zones superficielles très forte, avec un très grand nombre de neurones inhibiteurs. Et je reviendrai là-dessus peut-être à un moment, peut-être l'année prochaine, mais ces problèmes d'inhibition sont des problèmes extraordinairement importants. Pour ce qui est, je vous ai dit, par exemple, les périodes critiques sont liées à la maturation des systèmes inhibiteurs. Et il y a pas mal de théories, en particulier sur certaines maladies psychiatriques comme la schizophrénie, qui pensent que ce sont des désinhibitions qui se produisent au niveau du cortex qui sont à l'origine de certaines maladies, même si ces maladies sont évidemment beaucoup plus complexes que certains biologistes voudraient nous le faire croire. Donc, autre chose, alors évidemment, penser que l'homme est lié à une augmentation de neurones inhibiteurs, c'est un petit peu... C'est nouveau, c'est la vexation, hein, après Darwin, voilà. Et Ramon y Caral, d'ailleurs, avait un petit peu de mal à s'y faire, à cette idée. Il a écrit lui-même dans ses souvenirs de sa vie, qu'il a publié en 1917, « L'opinion généralement acceptée à cette époque... que les différences entre le cerveau des mammifères autres que l'homme, le chat, le chien, le singe, etc., et celui de l'homme sont seulement quantitatives, me semblait peu probable, et même un peu offensante pour la dignité humaine. » Bon, Ramón y Cajal n'était pas un matérialiste très, très, très convaincu.
Mes recherches ont montré que la supériorité fonctionnelle du cerveau humain est intimement liée à la prodigieuse abondance et l'inhabituelle richesse de formes des neurones dits axones courts, c'est-à-dire des interneurones GABAergiques. Donc, il avait dit lui-même constater que, effectivement, la grosse différence entre un cerveau de singe et un cerveau d'homme, c'est cette extraordinaire quantité, mais aussi richesse de formes et variété de ces interneurones, sur lesquels on pourrait faire quasiment un cours entier. Et peut-être qu'un jour, je m'y livrerai, une fois que j'aurai rattrapé mon retard scolaire dans le domaine. Donc, oui, parce que j'en apprends tant que vous avec tout ça. Alors, une autre question qui est vraiment importante, c'est que c'est bien gentil d'augmenter la taille du cortex, hein, mais quid du thalamus, hein, parce que vous voyez que j'augmente la taille de mon cortex d'un facteur 4. Mais si je garde un petit thalamus, alors que j'ai des connexions qui vont du thalamus au cortex et du cortex au thalamus, j'ai un problème inhérent au système. Donc, il faut que je comprenne comment mon thalamus a pu s'adapter à mon cortex quand j'appartiens évidemment à une espèce à très grand cortex, qui est notre cas. Donc, je ne sais pas. Mais il y a eu un travail qui a été fait en 2001 par quelqu'un qui s'appelle Pascal Rakish, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, parce que c'est un très grand neurobiologiste. Et Pascal a montré quelque chose que j'ai trouvé particulièrement amusant. C'est-à-dire que ce qu'on sait, par exemple, c'est que chez les vertébrés, chez Sapiens, on voit une augmentation de la taille du thalamus. Donc on voit une augmentation de la taille du cortex, on voit aussi une augmentation de la taille du thalamus. Mais si on regarde s'il y a une prolifération supérieure dans le thalamus, à ce qu'on voit dans un singe, on ne le voit pas. Autant dans le cortex, on peut voir qu'il y a plus de générations de cellules, autant dans le thalamus, on ne voit pas de plus de générations. Pourtant, il y a plus de cellules et le thalamus est plus grand. Donc ça pose un vrai problème de l'origine de ces cellules supplémentaires dans le cerveau de Sapiens. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que c'est quand même la semaine dernière, et comme je vous disais, la semaine dernière, cette semaine aussi peut-être, mais j'avais l'impression d'avoir été un peu rapide. Je vous ai dit que, c'est la semaine d'avant d'ailleurs, dire que le télencéphale donne, c'est le télencéphale qui donne le cortex et les éminences ganglionnaires, hein, pallium et subpallium. Et par contre, le thalamus, lui, vient d'une autre structure qui est un peu plus postérieure, qu'on appelle le diencéphale. Et entre le diencéphale et le télencéphale, il y a un bord. Hein, et il y a un bord que les cellules ne peuvent pas passer, c'est-à-dire que c'est un vrai bord. Hein. Donc, ce vrai bord, je vous l'ai mis ici, en noir, pour que vous le voyez bien. Voilà ici le diencéphale qui va donner le thalamus. Ici, c'est le thalamus dorsal, en fait. Et ici, vous avez le cortex, et ici, vous avez le bord. Donc, ce qui se passe chez une souris, c'est que mes neurones ganglionnaires, ici, vont participer à la formation du néocortex, hein, les neurones GABAergiques qui migrent depuis les éminences ganglionnaires vers le néocortex, mais jamais, jamais, elles vont aller se balader du côté du diencéphale. Ça, c'est interdit. Hein, y a un bord. Et voilà ici, par exemple, la coupe de mon cerveau. Ici, j'ai le subthalamus, ça c'est le subthalamus, ça c'est le thalamus dorsal, ça c'est le plexus choroïde, ici ce sont les éminences ganglionnaires, mes neurones vont aller migrer par ici pour faire des interneurones GABAergiques dans le cortex, mais ces neurones ne peuvent pas migrer de ce côté-là parce que d'abord elles sont repoussées par le subthalamus et elles sont surtout repoussées par des facteurs qui sont sécrétés par le plexus choroïde. Vous savez que j'ai fait une fixation sur le plexus choroïde, pour ceux d'entre vous qui ont pu le remarquer. Je trouve que c'est une structure absolument fascinante. Et si vous mettez en culture ces cellules, ici, avec des petits bouts de thalamus dorsal, ou de subthalamus, ou de plexus choroïde, vous verrez que les cellules ne migrent pas, elles sont repoussées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller dans la direction de ces choses-là. Par contre, si vous regardez chez Sapiens, en fait, ce qui se passe, c'est que, d'après toujours Letinic et Rakish, hein, les neurones des éminences ganglionnaires, non seulement vont aller faire des neurones GABAergiques dans le cortex,
Mais elles sont capables maintenant de franchir ce bord et d'aller enrichir le thalamus. C'est-à-dire que vous avez dans le thalamus un composant télencéphalique. Le thalamus n'est plus entièrement diencéphalique, il est aussi télencéphalique, et énormément de neurones GABAergiques, et en particulier du thalamus dorsal, parce que les neurones GABAergiques, on les trouve essentiellement dans le thalamus dorsal, et pas dans les autres régions thalamiques, eh bien, le thalamus dorsal est enrichi en neurones GABAergiques qui viennent des éminences ganglionnaires. Donc il y a une mutation. Et maintenant, si vous faites la même manip, vous prenez des neurones de votre sapiens et vous les mettez en culture à côté de petits explants composés soit de plexus choroïde, soit de thalamus dorsal, vous verrez que vous n'avez plus d'inhibition. C'est-à-dire qu'en fait, vos neurones sont capables de traverser, hein, ils ont perdu cette inhibition de bord. Donc, et c'est une traversée qui est assez... Alors, ça veut dire qu'il y a eu une mutation, quelque part, qui s'est produite entre le singe et nous, qui fait qu'on a pu enrichir le thalamus à partir de neurones qui sont en fait des neurones qui ne sont pas des neurones diencéphaliques, mais ce sont des neurones télencéphaliques. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve assez amusant. Donc, ils ont fait des cultures de cortex humain et ils ont démontré directement le passage depuis les éminences ganglionnaires de neurones GABAergiques vers le thalamus cortex, vers le thalamus dorsal. Donc, on ne sait pas de quelles sont ces mutations qui sont à Paris et qui ont permis l'acquisition de ce trait humain. Mais ce qui est clair, c'est que je ne pense pas qu'ils aient regardé chez un gorille ou un chimpanzé. Donc, peut-être que c'est... En tout cas, ils ont regardé chez le macaque. Hein. En tout cas, chez le macaque, ça ne se produit pas comme ça. Et ces cellules, qui sont des cellules bipolaires, elles migrent en chaîne, un peu comme d'autres cellules, les cellules de la SEZ qui migrent vers la bulbe active. Elles migrent en faisant des chaînettes, et leur migration nécessite l'expression de deux gènes de développement qui s'appellent DLX1 et DLX2, qui sont aussi impliqués dans la migration des neurones ganglionnaires vers le cortex. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme, mais ils font un tour complet, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas uniquement dans le cortex, ils vont aussi se mettre dans le thalamus. Donc, la conclusion des auteurs, qui sera aussi la mienne aujourd'hui, c'est que nous suggérons que les neurones du télencéphale contribuent à l'expansion des noyaux associatifs du thalamus qui sont liés anatomiquement aux aires associatives importantes pour les fonctions cognitives qui sont spécifiques des hominidés. Et donc, j'en arrêterai là, donc, avec ce coup de phare de nouveau sur ces fameux neurones GABAergiques qui, chez Sapiens, ont trois origines. Hein. Ceux du thalamus viennent des éminences ganglionnaires, ce qui n'existe jamais chez les autres animaux. Ceux du néocortex viennent aussi des éminences ganglionnaires, mais ils viennent aussi de la zone sous-ventriculaire, ce qui n'est jamais le cas non plus chez les autres animaux. Voilà. Bah, écoutez, la semaine prochaine, je vais prendre quelques questions, pour une fois on termine bien. La semaine prochaine, nous ferons un cours peut-être un tout petit peu plus long, où je vous parlerai des dérégulations génétiques qui ont pu amener à la naissance de Sapiens, et peut-être un peu plus tard, c'est-à-dire les régulations au niveau transcriptionnel, traductionnel, post-traductionnel, qui font qu'on a un cerveau qui est un petit peu différent de nos collègues chimpanzés, et puis peut-être sur le futur de l'homme, c'est-à-dire sur l'évolution future de Sapiens. Est-ce que Sapiens évolue encore ? Est-ce que cette évolution est purement naturelle ou est-ce qu'elle est simplement technique ? Des questions qui sont souvent posées par les étudiants et pas seulement par les étudiants. Et je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.